Vous écoutez
RMC.
On est ensemble sur RMC en direct jusqu'à minuit avec Elton Mokolo, avec Maxime Chano. Nous avions le bonheur d'avoir Stéphane Gilles, l'entraîneur d'Angers, l'invité de l'Afterfoot à 22h. Vous pouvez retrouver cette interview sur rmcsport.fr. On parlait de Lille. Lille qui pourrait voir certains de ses joueurs partir, en tout cas qui sont pistés par des gros clubs, Boadi et Fernandez Pardo. On accueille Dimitri au 32-16 sur RMC, supporter du LOSC. Bonsoir Dimitri.
Bonsoir, comment ça va Dimitri?
Nous, ça va très bien. Et toi?
Ouais, ça va, super. Il fait moins chaud, ça va, ça fait du bien.
Comment ça, il fait moins chaud? Tu habites où?
Je suis à Paris, là, ça va, ça commence à tomber un peu, là.
Ah bon?
Aujourd'hui, il faisait chaud, quand même.
Ah bon, non, il faisait très chaud.
Vous êtes sous clim, qu'est-ce que vous me dites, là?
Alors, on est sous clim, effectivement, pendant le direct.
Oui,
mais on est la journée, comme tout le monde, on vit. Et moi, je trouve qu'il fait très chaud, alors je suis assez surprise.
Il faisait chaud aujourd'hui, je suis d'accord, mais là, il commence à faire bon.
Ah, 22h42,
c'est ça?
Voilà,
exactement.
Ah, très bien.
C'est pas pareil que 17h.
Parce qu'effectivement, on est enfermé dans le studio pour notre plus grand plaisir, mais effectivement, aujourd'hui, on a trouvé qu'il faisait un petit peu chaud, puis on rappelle qu'on retourne dans une canicule, là, à partir de demain, donc il fait très très chaud. Mais Dimitri, bon, on a fait un petit point météo, c'était sympa, Evelyne Delia, tu voulais nous parler de Lille également, je crois.
Oui. Alors, j'ai pas tout écouté de ce que vous avez dit, mais de ce que j'ai compris. Donc, vous avez parlé de Boadi et de Pardo.
Tout à fait.
Boadi, apparemment, Boadi va partir. Ça, c'est pas une surprise. Honnêtement, à ce prix-là, je pense qu'il y a aucun club qui peut le garder.
Bah, c'est la plus grosse vente de l'histoire de la Ligue 1, hormis Kylian Mbappé.
Bah oui. Enfin, j'ai envie de te dire. Et puis même, Boadi, 100 millions d'euros. Enfin, il faut vendre. Et après, pour Pardo, moi, je suis pas forcément de l'avis de beaucoup de supporters lillois. Moi, je suis plutôt d'avis de le vendre, en fait.
Dimitri, pardon, je te coupe parce qu'il y a le direct d'athlétisme. On te garde, évidemment, mes priorités au direct avec Aurélien Tirsain. On vit les derniers tours du 4x400 mixte. Aurélien.
Ouais, et on va croiser les doigts pour une remontada. Et alors peut-être, parce que pour l'instant Teddy, je suis avec Teddy Tamgour, on en est loin. Samuel Vessa notamment a été assez mauvais. On est 6e, 7e pour l'instant de cette finale du 4x4 mixte.
Mais ça va être assez compliqué pour aller chercher une médaille, même si Black Isabelle est assez rapide et justement a couru en dessous des 51 secondes cette année. Mais là, vraiment, l'écart est trop conséquent pour espérer un retour à la Floria Gay.
Eh oui, on est 7e pour l'instant. On peut espérer une Floria Gay, mais Isabelle Black, la championne de France, est très loin pour le moment. Ça va se jouer entre les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et la Norvège. Comme prévu, finalement, les Néerlandais, c'est une de leurs spécialités. Il n'y a pas Femke Bol. Les Français sont toujours classés en 7e position. C'est le dernier virage. On est au Alexander Stadium de Birmingham. Et il y a un gros duel. Il y a de l'ambiance parce que c'est la Grande-Bretagne qui fait l'effort. Mais la Norvège qui passe devant tout le monde avec notamment Jäger, Henriette Jäger. C'est une très solide course de 400 et la Norvège remporte le titre européen du 4x400 mixte devant la Grande-Bretagne, les Pays-Bas. La 7e place pour l'équipe de France. Heureusement qu'Étienne Daguinaud, c'est une médaille de bronze. Sinon, Montelli, on aura passé une bien mauvaise soirée avec Gressier, 4e du 5000 mètres. Et donc, pas de finale, pas de médaille, pardon, pour le 4x400 mètres mixte et l'équipe de France.
Quelle déception, Aurélien. Je venais toujours, te voir, fait, j'étais pleine d'espoir.
Ça fait 10 ans, Karine, que je mange ce genre de choses tous les soirs, tous les ans. Ah ouais. Je suis habitué.
Bon, que tu nous vends un petit peu des médailles à venir? On peut espérer quelque chose là bientôt?
Ce soir,
pas,
non.
Non, ce soir, non, c'est cuit.
Il reste le 100 mètres féminin, mais au moins maintenant on a fait les choses bien. Il n'y a plus de Français sur le sprint. Comme ça, c'est réglé. On n'est pas déçus.
Bon, bah écoute, on viendra te voir quand même pour la finale du 100 mètres femmes avec Teddy Tamgo et on espère que les médailles continueront à venir dans les jours prochains. Et on rappelle effectivement, tu l'as dit, que malheureusement Jim Gressier a terminé 4e de sa finale. Merci messieurs, on se retrouve dans quelques minutes et on reprend Dimitri. Pardon Dimitri, hein, on t'a coupé, mais parce que Aurélien nous avait vendu un finish de folie. Moi j'étais là au taquet.
Il j'espérais dit, une remontada française. 2014.
Et puis rien.
Non, c'est pas ça.
Donc Dimitri, on était sur Fernandez.
Attention, donc toi t'as dit Fernandez Pardo, tu le vends?
Non, alors moi je vous disais attention, que si on arrive à avoir une offre à 50 millions d'euros, moi personnellement, hein, je vois pas un potentiel énorme à Fernandez Pardo. Donc je vois un peu sur le court terme. Oh. Et je me dis, surtout que l'année prochaine, s'il reste, ça serait pour jouer numéro 9. Moi personnellement, je n'aime pas trop numéro 9. Après, je sais pas si vous l'avez dit, mais honnêtement, si tu vends Boadi, même si tu vends pas Boadi, et l'étang l'a dit, on n'est pas obligé de vendre, hein, on est un des seuls clubs encore en Europe qui gagne encore de l'argent chaque année.
Oui, vous allez bien, vous êtes bien géré, vous êtes un club.
Tu es bien, mais quand t'as une offre comme ça, tu peux pas dire non.
Exactement,
c'est bien géré, c'est pas possible.
Mais c'est pas dans le dû au contexte de la Ligue 1. Hein. C'est dû au contexte, effectivement, l'offre, elle est irrefusable. Et donc, du coup, encore plus si tu vends Boisdi, Pardo, je pense que s'il part, il part à une offre que tu peux pas refuser aussi. Donc, 50, 60, 70 millions. Apparemment, il y a une info qui est sortie comme quoi il demandait 75 millions d'euros.
Ce qui pourrait être logique, hein, ce qui est très, très cher. Hein.
C'est énorme.
Quand tu regardes l'index un petit peu des transferts sortants sur des joueurs de 20, 21 ans.
C'est en adéquation avec le marché de numéro 9 aujourd'hui.
Exactement, je l'avais dit. En plus, international belge, c'est vrai qu'aux alentours de 50, 60 millions d'euros, c'est pas fou. Hein.
Pas fou, dans le sens où c'est pas beaucoup ?
Non, je veux dire, je pense que c'est les prix qui vont être demandés, c'est les prix qui vont être proposés par les clubs.
Ça
paraît complètement dingue, un jeune joueur comme ça de 21 ans qui a quand même pas énormément de saison, très haut niveau.
Il a 3 mois de compétition en tant que numéro 9.
Mais c'est surtout depuis que Genesio l'a replacé numéro 9. C'était un choix finalement intéressant et ça lui a permis justement d'avoir une valeur marchande qui a encore une fois augmenté. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que. En tout cas, je pense pas que l'État prendrait le risque de se déstabiliser et de se déséquilibrer en vendant à la fois Boisdi qui est donc un milieu défensif, en tout cas un milieu, et Fernandez Pardo qui est un peu le leader de l'attaque hein, actuellement. Alors on va voir si Ancelotti va encore une fois le positionner en tant que numéro 9, je pense que ça va être le cas.
A priori c'est le plan, parce qu'en fait t'as Igaman qui revient de blessure, t'as Giroud en troisième attaquant et t'as normalement Pardo en titulaire avec Igaman quand il va revenir.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui Dimitri, moi je suis pas dans une idée de le vendre. Moi si Lille encore une fois qui a un exemple notamment sur sa manière de construire un club dans le foot de très haut niveau, tu peux montrer les muscles aujourd'hui sur le marché des transferts. Alors oui, t'as Boisdi, c'est une chose, mais par contre, il faudra Fernandez Pardo. Déjà, d'un point de vue individuel, pour moi, il n'a pas encore atteint son plafond. Il n'a que 3 mois de compétition, entre guillemets, en tant que numéro 9. Et moi, j'ai envie de le voir. Même pour lui, j'ai envie de le voir sur une saison entière. Et même pour Lille, à un moment donné, la braderie de Lille, c'est en septembre. C'est pas avant. Donc c'est pour ça que moi, je
dis. C'est très sympa, la braderie.
Oui, c'est très sympa, mais à un moment donné, t'as des objets. Parce que moi, Karen, on a parlé de Lille, mais moi, je peux pas m'empêcher de me dire que pour peu qu'ils aient quand même une stabilité, mais ils peuvent continuer de voir vers le haut du côté de la Ligue 1. Parce qu'aujourd'hui, il y a un champ de possible qui est quand même très intéressant pour Lille. Et moi, je suis conscient, je suis sûr même qu'Olivier Létang, il l'a en tête. Et donc, dans ce contexte-là, un Fernandez Pardo, sauf offre irréfusable, et ben tu dis non, tu vas rester du côté du LOSC.
Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, surtout que l'effectif, il bouge pas tant que ça. Même si tu vends Boisdi, t'as quasiment la même équipe que la saison passée. Moi, où je voulais mettre juste l'alerte avant que vous me coupiez, parce que je te sens, Karine, c'est plutôt sur le côté droit où tu vas faire la saison avec Mbappé, normalement titulaire, et derrière Noah Edjouma. Bon, avoir fait un pari, honnêtement, je suis pas convaincu de ça, mais écoutez, on verra. Bah,
Edjouma, t'as mis quoi? T'as mis 6 millions d'euros, si je dis pas de bêtises.
Ah ouais, mais enfin bon, tu disais que Pardo, il avait 3 mois de compétition en tant que numéro 9. Lui, il a même pas une saison complète en Ligue 1, donc j'aurais de te dire.
Après, tu sais très bien que c'est aussi la politique sportive de Lille, que moi je continue de le dire. C'est la référence sur ces 10 dernières années dans sa capacité justement à exposer et faire exploser de jeunes joueurs qui sont capables de grandir en faisant de bonnes choses, mais aussi en faisant des erreurs. Et c'est comme ça qu'ils grandissent. Je pense que l'idée derrière la tête, c'est de pouvoir leur donner du temps de jeu en leur disant que voilà, vous avez la Ligue 1, vous avez la Ligue des Champions, vous avez la Coupe de France pour vous montrer, et qu'il n'y aura pas, entre guillemets, un joueur un peu plus expérimenté qui va arriver.
Dimitri, par rapport à cette saison, qui est une saison où il y a quand même une inconnue, bien évidemment, David et Ancelotti, on ne sait pas ce qu'il vaut comme numéro 1, est-ce que tu es assez confiant avec ce retour en Ligue des Champions ou est-ce que tu es inquiet ?
Non, je ne suis pas inquiet. En fait, Eton l'a un peu dit. En fait, quand tu regardes nos adversaires directs, Rennes, Monaco, Lyon, Marseille, ils ont tous leurs problèmes. En fait, soit ils ont des problèmes financiers, soit ils ont des problèmes d'effectifs, soit ils ont viré leur directeur sportif. Donc, en fait, il n'y a aucune équipe qui est vraiment prête. Et en fait, si tu regardes un petit peu le panel des 5-6 équipes, une des équipes les plus prêtes et celle qui change le moins, hormis le coach, bah, c'est Lille. Donc, j'ai envie de te dire, t'as pas besoin d'être trop inquiet en soi. Effectivement, la seule interrogation, si je pourrais dire, c'est le coach. Mais bon, après, j'ai envie de te dire.
C'est une grosse interrogation quand même. Hein.
C'est une grosse interrogation. C'est une grosse interrogation. Après, pour l'instant, les matchs amicaux, il y a rien d'alarmant. Après, c'est des matchs amicaux. Hein. Tu peux pas t'appuyer dessus. Donc, on verra bien. On peut pas trop le juger. Il a pas fait une saison catastrophique à Botafogo. C'était pas non plus énorme. C'était pas nul. Donc, on verra bien.
C'est pas Domènech. Je suis totalement d'accord avec Dimitri. Karine, moi, s'il y avait pas l'inconnu coach, je mettrais un gros billet sur Lille deuxième du championnat, par exemple.
Ah bah oui, mais bon, l'inconnu coach, c'est quand même quelque chose de plus important.
Ah oui, voilà.
On a hâte de voir ce que ça va donner.
Ah oui, voilà.
Mais je suis d'accord avec toi pour deux raisons, parce que tu as aussi les autres clubs de Ligue 1, notamment Monaco, Marseille, qui derrière sont obligés de dégraisser. Donc je pense que la concurrence sera peut-être moins intense que l'année dernière. Donc je suis d'accord avec Elton. Si Lille devait garder leurs joueurs, s'ils devaient uniquement enregistrer le départ de Boadi et peut-être garder Fernandez Pardo, je les vois bien en haut du classement, à condition évidemment que Davide Ancelotti, le nouvel entraîneur, puisse se mettre au diapason et puisse s'adapter très rapidement à la Ligue 1.
En tout cas, ça sera l'une des attractions de cette Ligue 1, un nouvel entraîneur, on l'a dit, Davide Ancelotti. On rappelle que 12 changements de coach sur les 16 clubs qui étaient déjà présents en Ligue 1 la saison passée, donc il y a eu vraiment beaucoup de changements. Merci Dimitri, on te souhaite une très belle saison.
Bonne soirée.
Le premier match, ça sera sur la pelouse d'Angers le dimanche 23 août. On va tout de suite retourner à Birmingham. Aurélien Tirsin et Teddy Tamgo nous attendent. La finale du 100 mètres femmes va partir dans quelques secondes.
C'est toujours le clou du spectacle, les 100 mètres à la fin du programme. Alors, il n'y a pas de Français, mais je vais faire kiffer Maxime. Il y a Patricia van der Wecken, qui derrière lui est peut-être la luxembourgeoise la plus connue dans le monde. Je ne sais pas. En tout cas, elle a ses chances. Elle a ses chances, Patricia van der Wecken, au couloir numéro 5. Aux côtés d'Eva Svoboda et Amy Hunt, la Britannique, qui est la favorite peut-être. Teddy, il y a Dina Asher-Smith, qui est la championne d'Europe en titre, un peu vieillissante. En deux mots, Amy Hunt, la favorite pour toi?
Complètement. Je mise d'ailleurs pour une victoire de Hunt, donc d'Amy. Donc, je suis assez étonné qu'elle perde, parce que depuis déjà un an, elle a passé un cap.
Il y a Zainab Dosso également, l'Italienne, qui a couru vite cette année. La ligne de départ est complétée par la Belge Delphine Kanza et la Suisse Salomé Cora. Les sprinteuses, les 8, sont alignées évidemment sur la piste bleue de Birmingham. Le stade se tait, il n'y a pas une énorme affluence. Allez, c'est parti ce soir pour les Britanniques. Amy Hunt, c'est compliqué. Il y a Eva Svoboda, la Polonaise, qui part, et surtout la Suissesse Dittesio, frais. Mais Amy Hunt qui refait son retard et qui va devenir championne d'Europe à domicile, bravo Teddy, les deux mains en l'air, puisque Amy Hunt va remporter son premier titre européen. Il y aura ensuite une petite photo finish pour savoir qui est en argent. A priori, Eva Svoboda, la Polonaise, Géraldine Dittisio Frey, la Suissesse, troisième, 11 secondes 0-0 pour Amy Hunt. On est assez loin d'un record du monde quand même, hein. Mais c'est l'Angleterre, c'est Amy Hunt qui est championne d'Europe, Teddy.
C'est super de gagner chez soi, en tout cas. Elle a tenu son statut, tout simplement. L'année dernière, elle a été médaillée au championnat du monde sur 200 mètres. Sur 100 mètres, elle a pas mal progressé. Elle est arrivée avec la meilleure performance, n'est-ce pas, des engagés pour cette finale. Et voilà, elle a tenu son rang. Et parfait.
Ah, par contre, la photo finish, elle est défavorable à Dittisio Frey. Géraldine, la Suissesse, qui avait la meilleure perf européenne de la saison. C'est Delphine Nkanza qui a du mal à y croire aussi. Mais record personnel en 11-06. La Belge est en bronze sur ce 100 mètres des championnats d'Europe de Birmingham. La luxembourgeoise Patricia van der Wecken termine 6e. Oh, voilà, ça nous rapproche un petit peu français et luxembourgeois.
Quoi, pour la luxembourgeoise,
je suis désolé.
Attends, Aurélien nous l'a vendu comme une luxembourgeoise qui est était potentiellement médaillable, non, avant la Coupe.
Il y a pas de Gésa. Ah bah totalement.
Ah bah voilà.
J'ai cherché à te défendre, Aurélien. J'ai cherché à te défendre.
Donc là, on est sur
parce que vous connaissez le sport, merci.
On est sur un raté de la luxembourgeoise, on est d'accord.
Sixième en finale, c'est pas mal du tout. Bravo Luxembourg. Bah oui, on en est très fiers.
Bah, et Karine, est-ce que t'es la sixième européenne la plus rapide? Je ne crois pas. Patricia van der Wecken, elle l'est, ça c'est sûr.
Alors là, il n'y a aucun souci. Il n'y a vraiment aucun souci. Hein. Non, mais bon, j'espérais, tu vois, que notre luxembourgeoise fasse une perf, parce que tu me l'avais vendu comme ça, j'y ai cru. Bah,
sixième, c'est pas mal.
Non, mais
c'est pas...
En vrai, c'était pour faire kiffer Maxime, j'y croyais pas beaucoup, mais bon, ouais, on est comme ça, on est ensemble.
Bah, c'est une victoire à domicile. Une Anglaise qui gagne devant son public, c'est toujours bien.
Ça aurait été sympa d'avoir une luxembourgeoise championne, non?
Bah, oui, moi, j'étais pas contre, mais j'ai l'impression qu'elle s'est ratée. Sixième, on peut pas dire que ce soit une grosse perf.
Sixième, pour le Luxembourg, plus proche de la huitième place que de la première.
Pour un pays comme le Luxembourg, sixième en finale, c'est presque.
Ah, bah oui,
c'est championnat d'Europe, on n'est pas JO.
C'était la même chose quand on joue au ballon. Écoute, si on finissait 5 ou 6e de notre groupe, c'était presque une victoire.
Oh là là, que d'ambition, dis donc, ça fait rêver tout ça. Aurélien, les médailles arrivent quand là? Parce qu'aujourd'hui, on a une petite médaille.
Mais on en a une.
Oui, je sais.
Bah voilà, bah on en a une. Etienne Daguino s'en bronze sur le 5000 mètres. Ah, ouais, c'est vrai que c'est très gourmand. Alors demain, il y a la finale du marteau homme avec Yann Chossinan. Ce sera à partir de 20h10. On aura le 100 mètres haies chez les filles avec Sacha Alessandrini et Laetitia Bapté, qui ont les deux une chance de monter sur le podium. Mais je te vois arriver, elles vont probablement se cracher, c'est ce que tu vas me dire. Mais on y croit toujours un petit peu. Et on a Samuel Vessa qui sera en demi-finale du 400 mètres homme. Mais il nous a un petit peu déçu, Teddy, simplement en un mot. Samuel Vessa qui est le recordman de France désormais et qui s'est un petit peu manqué là pour le relais 4x4 mixte.
Ouais, c'est sûr qu'il s'est complètement, fait larguer aujourd'hui là sur cette course. J'étais assez étonné justement de son comportement. Maintenant, il faut savoir qu'il est, aux États-Unis, il est en université américaine. La saison a pu être assez longue pour lui. Ouais. Et puis après, bon, j'attendrai quand même les demi-finales du 400 mètres avant de. Oui. De soulever en fait le cas des championnats de France à Albi.
Bon, on devrait pas être submergé par les médailles de toute façon, Karine. On va quand même en espérer une dizaine. En vrai, sous les 10 médailles, ce serait quand même un échec pour l'équipe de France d'athlétisme, parce que autant au niveau mondial, bon bah on sait qu'on en aura une, voire deux quand ça veut bien sourire, comme avec Jimmy Gressy à Tokyo en septembre dernier. Mais en Europe, normalement, on devrait être aux alentours de la dizaine, à minima. Et pour l'instant, c'est vrai que la première journée est un petit peu décevante.
Oui, c'est vrai qu'il fallait pas avoir trop faim aujourd'hui. Une seule médaille, une médaille de bronze. Merci beaucoup, messieurs. Je vous libère.
À demain. Ciao.
À demain. Belle soirée à vous, Aurélien et Teddy. Mais moi, je suis toujours orpheline de Marie-Josée Pérec, de Stéphane Diagana, de Muriel Urti,
Medibala, Marc Raquel,
Karine.
Là,
Muriel Urti, Ronola
Zileni. Ouais. Ça n'a pas l'air de te passionner.
Bah non, je pense à l'athlétisme luxembourgeois qui, visiblement, ce soir, est en berne avec cette sixième place. Mais non, on n'a pas eu la chance d'avoir autant de champions que vous, nous, du côté du Luxembourg.
Ouais, c'est vrai qu'on a bien mangé il y a quelques années.
Ouais, enfin, le problème, c'est que ça fait longtemps qu'on ne mange plus. Hein,
oui, mais on s'est gavé quand même.
Moi, je suis toujours orpheline de Marie-Josée Pérec.
Ah ouais,
ça date de 92-96.
Ça fait 30 ans.
C'est une époque, Karine.
Ouais. Et alors, ça reste la queen.
Yonis Barber, Saint-Denis, 2003.
Oui, mais bon, quand même, les trois médailles d'or au JO, ça reste au-dessus, tu vois.
Ah oui. Ah ben, là, c'est la seule qui a fait doubler 200-400.
Magnifique, magnifique. Moi, je suis orpheline de tout ça, voilà. Mais on espère que les médailles vont quand même arriver. Aurélien nous a promis quelques médailles à venir. On rappelle donc que les championnats d'Europe Art Birmingham sont à suivre sur rmcsport.fr. On souhaite bonne chance à nos athlètes. Dans quelques instants, messieurs, on va parler de l'Olympique Lyonnais. Vous le savez, demain, c'est un jour important pour l'avenir européen de l'OL, opposé au Sparta Prague. On parlera également des changements de gardien en Ligue 1. En tout cas, il y a un turnover possible. Toutes les informations également à J-2 de PSG Aston Villa. Ça sera la finale de la Super Coupe. On est ensemble jusqu'à minuit en direct. À tout de suite sur RMC.